flamants roses migrateurs se sont posés sur le lac de sel. Les ibis migrateurs se sont posés sur le lac de sel. Et les pélicans blancs, très menacés, migrateurs, se sont posés sur le lac de sel. Ou plutôt, sur les petits lambeaux de terre parsemés dans le lac de sel. Ici, ils viennent trouver de la chaleur et de la nourriture, au milieu du désert de sel, où se trouve le lac de sel, même s'ils préfèrent le premier lac de sel au deuxième lac de sel, le premier étant celui où ils se sont posés. Quelques traces d'humidité subsistent dans ce lac en partie asséché, où la concentration de sel est très forte, puisque l'eau est partie. Mais le sel est resté, et s'agglutine en une espèce de mélasse plus ou moins solide, formant parfois de curieuses protubérances, comme des nuages solides posés à même le sol. Les flamants roses, même à terre, continuent ainsi à côtoyer les nuages, tout comme les ibis et les très menacés pélicans blancs. Et les autruches, qui, elles, sont habitantes permanentes du désert de sel, leurs grandes pattes puissantes leur permettant de parcourir de longues distances en peu de temps, et ainsi de trouver plus facilement de quoi manger ou s'abriter. Car dans les lacs de sel, la vie est difficile. Et dans les déserts de sel, la vie est difficile. Et dans les déserts tout court, la vie est difficile. Mais il y a des endroits dans le désert où la vie est plus difficile que dans d'autres. Et dans ce paysage minéral, il y a quelques rares acacias tout tordus, fournissant de dérisoires traces d'ombre, et des falaises sombres, noires, de basalte dominent les immenses champs de pirailles, noires, rouges, grises, grises, rouges, noires, champs jonchés de débris de lave, d'où s'élèvent quelques rares palmiers, sous lesquels viennent sautiller quelques sporadiques gazelles-girafes, toutes fières de montrer leurs élégantes cornes striées et gracieusement courbées vers l'arrière, coiffe qu'elles exhibent du haut de leur long cou, qu'elles érigent de toute leur fine, sèche, mais efficace musculature. Tandis que de leurs yeux remplis de douceur, de poésie et de beauté, regards soulignés par le tracé superbe de la pigmentation blanche du tour de leurs yeux, achevée par une ligne ocre partant du coin avant de l'œil, charme sans effort le minuscule Suimanga qui, en réponse, leur montre sa poitrine rouge. Les gazelles girafes ne parviennent pourtant pas à charmer le chacal, ou en tout cas, pas autant qu'elles le voudraient, c'est-à-dire au point de l'empêcher de penser à elles autrement qu'en termes de nourriture. Le chacal ne sort que la nuit, car il ne supporte pas la chaleur du jour. Car le jour vient du soleil, et la chaleur vient du soleil, et le soleil vient du ciel, et la lumière vient du ciel. Mais le chacal préfère la lumière du ciel de la nuit, non pas parce qu'elle éclaire moins, mais parce qu'elle chauffe moins. Et si la lumière de la lune vient en fait du soleil, car la lumière du soleil rebondit sur la lune, qui est un astre mort, donc un astre qui à la base ne dégage pas de lumière, comme le soleil qui est un astre vivant. Donc la lumière de la lune est en fait la lumière du soleil renvoyée par la lune, qui permet aux habitants de la terre de voir la lune et d'avoir de la lumière, et d'être éclairés et d'avoir de la chaleur, mais moins que lorsque c'est la lumière directe du soleil. Des fois, on ne voit pas la lune, mais c'est parce que la terre est passée entre le soleil et la lune, et que la terre est un obstacle à la lumière du soleil, et donc la lune n'est plus éclairée par le soleil, et on ne voit plus la lune. Mais ça ne veut pas dire que la lune n'est pas là. C'est l'image de la lune qui ne parvient plus aux animaux. Parfois, la terre ne cache pas toute la lumière du soleil, et une partie seulement de la lune est éclairée, mais en suivant la forme de l'ombre de la terre, ce qui donne un croissant de lumière sur la lune. Et les observateurs de ce phénomène peuvent croire qu'il s'agit d'un croissant de lune, alors que la lune, en réalité, est toujours entière et sphérique, mais qu'on ne peut en voir qu'une partie, en forme de croissant. Mais c'est la lumière du soleil, en partie cachée par la terre, qui, projetée vers la lune, rebondit sur une partie de la lune et donne cette image de croissant, fort belle au demeurant. Parfois, c'est la lune qui passe derrière la terre. Et à ce moment-là, si les animaux ne voient pas la lune, ce n'est pas parce que la lumière du soleil est bloquée partiellement par la terre, mais bel et bien parce que la lune est passée de l'autre côté de la terre, qui elle aussi est sphérique et qui tourne sur elle-même et autour du soleil, qui lui aussi tourne sur lui-même et autour du centre de la galaxie, qu'on ne peut pas voir puisque c'est un trou noir, et que les trous noirs retiennent et aspirent la lumière, et que si la lumière n'est pas renvoyée par l'élément vers qui elle se dirige, l'observateur ne peut pas voir l'élément vers qui elle se dirige. Mais ça ne veut pas dire que cet élément n'existe pas, et le chacal, dans le désert salé, regarde le ciel étoilé. La nuit, la température n'est pas trop chaude pour lui, et il part chasser gerboises. Ces petits rongeurs semblent lui faire signe avec leur fine et longue queue, au bout de laquelle s'agite une touffe de poils dont Dahu se serait servi pour peindre ce lac solidifié qui scintille en plein jour de ses innombrables cristaux de sel. C'est ce à quoi pense le chacal lorsqu'il sent les battements de la queue de la gerboise qu'il vient d'avaler sur son museau. Battements qui se font de plus en plus lents jusqu'à ce que la queue pende, inerte, et que le chacal l'aspire d'un seul coup. « Tu es comme la lune », adresse-t-il mentalement à la gerboise. Puis le chacal à dos noir moucheté de blanc repart, solitaire, vers son terrier. Mieux vaut être le dieu des morts que celui des autruches.